un certain nombre de disciples. Au fond des disciples, il y a beaucoup qui les suivaient. Et donc, tous ceux qui suivaient, le Seigneur, à un moment donné, il en a choisi 12 pour être ses disciples, pour être avec lui au plus près. On veut se poser un peu des questions ce matin. Luc l'a bien dit. On est ici ce matin pour réfléchir. Mais on n'est pas venu juste pour regarder un film ou une belle présentation. On est venu pour réfléchir, pour se poser, pour prendre du temps et laisser aussi le Seigneur parler à notre cœur. Laisser le parler à travers sa parole. Prendre du temps pour réfléchir à nos vies. Peut-être ce qui s'est passé et aussi à ce qui va être devant nous et comment faire pour prendre des décisions. Et on a un modèle qui est là devant nous aujourd'hui, sur toute cette journée. C'est notre Seigneur lui-même. Et on veut apprendre de lui comment lui a fait dans sa vie. Et quel modèle, quel exemple il nous a laissé. Donc ce premier thème, c'est une fois ses disciples. On veut aller voir ces deux disciples en particulier. Comme annoncé, c'était Pierre et Matthieu. On veut voir qui sont-ils dans leur vie de tous les jours. Un deuxième point, comment le Seigneur a fait pour les appeler. Et un troisième point, qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'est-ce que nous, on peut retirer de cela pour nous, personnellement? Donc la question se posait, comment devenir en fait un disciple de Jésus-Christ? Aujourd'hui, on est tous appelés à suivre quelqu'un ou quelque chose. On vit dans une ère de distraction. On vit dans un monde qui cherche à nous occuper du matin au soir, qui cherche à nous captiver. Et c'est peut-être les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, ça dépend des âges, qui se prennent, qui se laissent prendre captifs par ce qu'on voit ça. Ce qu'on appelle réseau social. Je n'ai pas mis tous les logos, j'en ai mis quelques-unes, juste pour mettre. Partout, on nous appelle, avec clic, tu me suis, tu peux me suivre, tu deviens un follower. Dans notre société aujourd'hui, ce qui compte, c'est ceux qui ont le plus de followers. Ou une vidéo qui a été vue 1 milliard de fois, ben ça, ça du poids, ça c'est quelque chose. Est-ce vrai? Et ça, c'est aussi la question qu'on veut se poser aujourd'hui. Comment faire donc pour être un disciple de Jésus? C'est quoi un disciple de Jésus? Est-ce que ça suffit de cliquer sur un petit bouton, clac, suivre, follow? Ok, je suis fan de Jésus. Ah, ça suffit? On va aller voir ça dans la suite. Le disciple, il est dit dans le livre des Actes, dans le chapitre 17, ces gens, ils ont bouleversé le monde. Il est dit dans un autre verset, avant, quand Pierre faisait son discours, ils virent l'assurance de Pierre et des gens et ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, dans la Bible, quelque part, si tu es quelqu'un, c'est parce que tu as été avec Jésus. Et aujourd'hui, et ça, c'est une question qu'on peut se poser et qu'on se pose déjà quand on est tout petit. Même les enfants, il y en a quelques-unes dans la salle, se posent la question, ben, comment faire pour suivre Jésus? Est-ce que déjà un enfant peut être avec Jésus? Oui, il peut. Et on va voir à l'exemple des deux hommes. Je ne sais même pas pourquoi on avait choisi exactement ces deux pour ces présentations, mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir ces deux personnes, Pierre et Matthieu, côte à côte, et comment le Seigneur les a choisis. Est-ce que nous ne voulons pas aussi être quelqu'un qui fait bouger quelque chose dans ce monde? Dans quel sens? Et ça, c'est la question qu'on se pose ce matin. Je vais passer trop vite, donc à offrir aux Bibles, si vous en avez, autrement j'ai les textes sur l'écran, dans Luc, l'évangile de Luc. Je me suis concentré pour Cette présentation, c'est l'évangile de Luc et au chapitre 5. On retrouve tout dans ce chapitre 5 de l'évangile de Luc. Et on va lire du verset 1 jusqu'à 11. L'évangile de Luc, chapitre 5, au verset 1er. Je lis dans la version second matin, ou la Isaïe 55. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il pria de l'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante ou la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ils ont ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. C'est une histoire que, je pense même déjà les enfants, sont déjà entendus à l'école du dimanche. C'est une histoire qu'on connaît quand on est dans une église, dès le départ. C'est quelque part, si on faisait un peu l'école du dimanche là ce matin, c'est une histoire qui est racontée. Et ce qui est beau quand même avec notre Seigneur, tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut tout comprendre, au moins l'essentiel. Il n'y a pas besoin de faire des études, des années d'études. Jésus se fait comprendre, même déjà les enfants. Je suis sûr, même si je demande aux enfants là ce matin de raconter l'histoire de la pêche miraculeuse, ben, ils pourraient le faire. Je ne vais pas le faire. Mais nous connaissons cette histoire. Il y a Pierre, un personnage de qui on lit beaucoup dans la parole. C'est un des disciples qui est le plus mentionné dans les quatre évangiles. Même cette histoire est mentionnée aussi dans les autres évangiles. On va rester là sur l'évangile de Luc. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on a lu? Il y avait Simon qui était en train de laver ses filets. Et pour ceux qui sont, on va dire peut-être de ma génération, encore plus âgés, ils sont connus même ici à La Rochelle, ceux des vieux ports. Ouais, les pêcheurs, il y en a un quoi, un tout petit peu, je crois, qui lavent des fois le filet. On peut les voir. Il y a beaucoup d'années, une trentaine d'années, quand moi j'étais ici, ben, on voyait encore des bateaux de pêche rentrer dans le port tous les jours. Aujourd'hui, à la place, il y a l'aquarium. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas ça. Donc, on est dans l'actualité, on est dans la ville où il y a de la pêche, il y a la mer. La Rochelle, c'est une grande ville. Il y a peut-être des pêcheurs ou des sociétés très connues. Comment c'était avec Pierre? Où est-ce qu'il était? Vous savez? Au bord d'un lac. Un petit lac. Lac de Génézareth, dans un petit plaid en Galilée. En Galilée, même pas un pays ou une région très connue. Ça n'attirait pas les foules de touristes là-bas. C'était un coin perdu, un pêcheur que personne ne connaissait. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait de cet homme? Encore aujourd'hui, on est presque à peu près 2000 ans après, on parle de lui. Il a laissé une empreinte dans ce monde, ce Pierre. Donc il était en train de laver, c'était un jour de travail tout normal, et Jésus débarque sur son lieu de travail. Jésus passe au travail de Pierre. Il lui demande de l'aide. Il dit à Pierre, tu as une barque. Il y a plein de gens qui veulent suivre, qui veulent m'entendre, qui veulent écouter. Il n'y a pas les micros comme aujourd'hui. Prête-moi ta barque, comme ça je vais un peu plus sur la mer, sur le lac, pardon. Et on m'entendra mieux. Donc Pierre lui prête sa barque, ok, oui, bon. Au pire, ça va, ça peut se faire, pas de souci. C'était un rabbi, quelqu'un qui avait des disciples dans son entourage. Donc à l'époque, je pense qu'on a déjà entendu parler, c'était un peu la coutume, ceux qui enseignaient, voilà, ils faisaient des disciples et les gens les suivaient pour apprendre d'eux. Comme aujourd'hui, un maître d'apprentissage qui apprend à son apprenti comment faire. L'apprenti, il apprend parce qu'il voit comment son maître est fait. Et à l'époque, c'était comme ça, donc il vivait avec eux. Ce n'était pas comme les docteurs d'université aujourd'hui où vous les voyez une heure ou deux heures par jour. Vous ne savez pas beaucoup plus de leur vie, sauf s'il y a des histoires. Là, les apprentis, et c'était avec leur maître. Ils les suivaient, ils les voyaient vivre. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut aussi pour nous. Et aujourd'hui, il veut nous donner quelques petits points de le voir vivre, de voir ce qu'il a vécu. Et donc ce Pierre, il lui prête sa barque. Jésus prêche. Et je pense que sa prédication, c'était, si je peux dire, oui, pas comme nos prédications aujourd'hui, c'était des prédications. Si on pouvait savoir comment il a fait, ce qu'il a dit, mais ça arrangerait beaucoup de monde de les former. Et il ramène la barque, la prédication est finie. Et Pierre, ok, merci pour la barque. La prédication n'avait pas touché. Il semblerait, parce qu'il n'y a rien écrit dans ce texte. Il avait entendu Jésus parler, Jésus-Christ lui-même, et ça n'avait pas touché. On dirait peut-être que Jésus a appelé peut-être à les suivre. On ne sait pas, ce qu'il a dit. En tout cas, Pierre, oui, ok, merci pour la barque. Et là, le Seigneur, il va voir Pierre et lui dit, écoute, prends tes filets de pêche là, que tu vas nettoyer, et va dehors, va sur les lacs. Il va pêcher, jette tes filets. Et Pierre, c'était un homme, comme on le connaît dans les évangiles, bon, assez impulsif, qui disait ce qu'il pensait. Des fois trop vite, mais comme certains aussi entre nous. On est comme ça. Il y a des caractères différents. Et Pierre était très brut. Bah oui, voilà, il parlait. Il dit, bah, maître, on a pêché toute l'année, on sait quand même comment faire. Ça fait des années qu'on fait de la pêche, on est des pros. Et toi, tu veux me dire de sortir maintenant, là, on ne pêche rien, la journée. Peut-être pas, il a peut-être pensé, peut-être pas. Il dit oui. Il dit quand même, ok, c'est attends sur ta parole, j'y vais. Il se rassure un peu, hein, il dit, moi, je ne serais pas allé, mais parce que toi, tu l'as dit, donc voilà. C'est ta faute, hein, si on y va. Hein. Le Seigneur le lance. Le lance sur le lac, et Pierre, il écoute. Bah, il fait. Il y va. Pierre, il y va, même si c'est contre son. Ce qu'il a appris dans son métier. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut une pêche, plein de poissons, comme ils n'ont peut-être jamais vu. En sorte que tout seuls, ils n'arrivaient pas à les rentrer. Ils ont appelé leurs copains, leurs associés. Aidez-nous, on a besoin d'autres barques, parce qu'on a trop de poissons. Et là, Pierre commence à réaliser, il y a quelque chose qui se passe ici qui n'est pas normal. Il y a un miracle qui s'est produit. Il y a une pêche. Cet homme qui m'a dit d'aller dehors, ce prédicateur, il l'avait certainement déjà vu avant. Oui, il a vu un témoignage déjà de lui. Il m'a dit, on a trouvé le Messie. Il dit, oui. Ok. Jusqu'à maintenant, ça ne l'avait pas touché plus. Et là, Pierre, waouh, il n'en peut plus. Il fait en sorte de revenir sur la terre. Il se jette devant le Seigneur Jésus. À genoux, je crois, oui, ça y est dit. Il tombe à genoux, au genou de Jésus, et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que moi, je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne de toi. Toi, tu es quelqu'un qui est pur, qui est puissant, qui peut faire beaucoup plus. Mais moi, non. Il a vu qui était Jésus parce que Jésus a opéré en fait un miracle. Dans cela, il a vu Jésus et ça lui touchait son cœur. Il va à Jésus, va. Non, moi je ne peux pas, toi tu es pur, mais moi, je suis un bonhomme tout simple. Et en plus, j'ai péché. Je ne suis pas digne de toi, de Dieu. Donc on a vu une prédication, on n'avait rien fait. Il avait entendu parler de Jésus, il avait peut-être déjà beaucoup d'informations, mais rien. Et là, un moment, un miracle. Le Seigneur se montre qui il est, ce qu'il peut faire. Entre guillemets, juste un petit truc. Il a juste amené les poissons dans les filets. C'était pas. Il n'a pas construit une fusée. Il a amené des poissons dans les filets. Des choses tout simples, mais que l'homme, même les scientifiques, n'arrivent pas à faire comme ça. Et la pierre a été touchée. Il s'est mis à Jésus, à Jésus. Donc on voit, il a connu, il a vu quelque chose du Seigneur Jésus. Il lui a dit, moi aussi, je sais que moi je ne suis pas. C'est une première leçon qu'il a appris. Et Simon Pierre, plus il a deux noms. Il a pris Simon, le Seigneur l'a appelé Simon. Dans la présentation, des fois on a appelé Pierre, Simon, on a les deux. Le Seigneur lui a donné ce nom Pierre. Tu vas être comme une pierre, tu appelleras Cephas. Une petite pierre, un morceau d'un rocher. Le Seigneur a donné une autre identité à cet homme. Il a fait un de ses disciples. Il a formé pendant toute sa vie. C'est très intéressant de voir sa vie, comment elle se développe, comment son caractère change dans la présence de Jésus. Parce qu'après, il a écrit des lettres aux chrétiens qu'on a encore aujourd'hui, les épîtres de Pierre, comme le berger, comme celui qui fait attention aux autres. Ici, au début, il était plutôt celui qui était toujours en avant. Il tapait dedans, il tapait avec la main sur la table. Il parlait quand il ne fallait pas parler. C'est des choses que même le Seigneur l'a repris de lui la reprendre des fois. Mais le Seigneur sait comment faire. Donc on retient dans sa vie la connaissance de la puissance et de la sainteté du Seigneur Jésus, conduit en fait à la prise de conscience de notre propre péché. Si on s'approche de Jésus, nous allons voir que lui est pur. Mais le Seigneur ne s'arrête pas, là. Il continue. Quand Pierre est à genoux devant le Seigneur, il dit, oui, va-t'en. Pierre, il dit au Seigneur, va. Et bon, quelque part, il avait raison. Quand nous approchons de Dieu, quand nous voyons qui il est, comment il est, sa grandeur, sa sainteté, sa majesté, sa puissance, son autorité, sa créativité, on se rend compte, nous on n'est pas, on est loin, on est très très loin. Et qu'est-ce qui est le réflexe, Seigneur, va-t'en. Mais qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Ne crains point. Désormais, tu seras pécheur. Ne crains point. Le Seigneur rassure. À chaque fois, quand on s'approche du Seigneur Jésus, il veut nous rassurer. Il cherche à nous avoir auprès de lui. Bien sûr, il faut qu'on vienne honnête. Allez. Pierre est honnête. Moi, je suis honnête. Moi, je ne suis pas digne. Et le Seigneur l'a pris et lui donne une mission. Tu seras pécheur d'homme, Tu vas faire de ce que tu as fait maintenant dans ton métier, spirituellement, tu vas continuer. Et c'est souvent que le Seigneur utilise nos capacités humaines aussi dans la spiritualité. Le Seigneur nous a tous donné des dons, tous différents. On n'est pas pareil, personne n'est pareil, mais chacun a sa place, chacun a sa spécificité. Et personne ne peut faire ce que toi tu as à faire mieux que toi. Personne. Même si Pierre ne croyait pas, il était vraiment un homme très ordinaire, qui allait à la pêche avec son bateau et voilà, il vendait son poisson et c'était bon. Et le Seigneur le rencontre sur son lieu de travail. Il lui dit, va, ne crains point, moi je te ferai pêcheur d'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Ah bah, ok. Je laisse tout, je te suis, je veux être avec toi. Il a tout laissé. Il est allé avec le Seigneur. Ça faisait un changement dans sa vie. Et il a fait. On va passer à la deuxième personne. C'est aussi quelqu'un qu'on a déjà entendu. Pareil, encore une autre histoire d'école des dimanches. C'est pour les enfants encore. C'est Matthieu. On l'appelle Lévi, des fois, hein, vous savez. Hein. C'est la même personne, très certainement, qui a écrit aussi l'évangile de Matthieu. Il y a un peu des discussions dessus, mais la plupart sont quand même d'accord, c'est Matthieu, ce Lévi qui a écrit l'évangile de Matthieu. Donc aussi un disciple qui a laissé des traces. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? On le connaît aussi aujourd'hui. Et on va aller un peu plus loin dans ce chapitre 5 de Luc, au verset 27. Je crois, pareil, sur l'écran, vous pouvez aussi lire dans vos bibles. Le chapitre 5, en fait, en Luc, le chapitre 5, 6 et 7, parle beaucoup. Il y a beaucoup de différentes situations où les seigneurs traitent avec le péché ou avec les pécheurs. Dans différentes situations. Ouais, il commence avec Pierre. On voit la reconnaissance, en fait, de la grandeur de Dieu dans Pierre. Plus loin, presque à la fin du chapitre, pas tout à fait, on voit cette histoire de Lévi. On va lire dans Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain, ou un collecteur d'impôts, nommé Lévi, assis au lieu du péage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ça, c'est l'histoire de Lévi. Elle est très courte. On voit le Seigneur, il passait son chemin, il voit, ah, tiens, il y a Lévi, pareil, qui est sur son lieu de travail, comme par hasard, je ne sais pas, mais collecteur d'impôts. Ben, dans ces villes, à l'époque, bon, il y avait les Romains qui avaient occupé Israël, et comme ça se faisait, bon, comme ça se fait toujours aujourd'hui, ben, il faut des sous, il faut toujours des sous. Donc, ils sont établis à l'entrée des villes, des maisons, pour collecter des impôts, pour rentrer dans une ville, si tu avais de la marchandise ou non. Selon ta marchandise et selon l'estime de ce collecteur d'impôts, tu pouvais rentrer dans la ville ou non. C'est un peu violent parfois. La plupart des gens, là, comme Matthieu ou Lévi, c'était un Israélite, mais il travaillait pour le gouvernement à Rome. Pour prendre des sous des Israélites pour les donner à Rome. Ce n'était pas vraiment bien vu. On peut s'imaginer. Et en plus, la plupart de ces collecteurs d'impôts n'étaient pas très honnêtes. Ben, on parle de l'argent. Donc beaucoup de ces collecteurs d'impôts, ben, c'était un peu des relous. Hein. Trafiquants. Ils cherchaient à se faire un peu plus d'argent, ben, bien sûr. Donc, en général, c'était des hommes, des personnes assez riches.
Il y avait aussi peut-être quelques personnes avec eux qui les aidaient un peu si quelqu'un ne voulait pas payer.
Bah, oui, quand même.
Ouais. On les fait payer.
On les fait comprendre quand même qu'il faut payer.
Donc un frais escroc.
C'est Mathieu, c'est les peut-être.
Déjà, ces collecteurs d'impôts sont venus avant à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a annoncé que le Messie va venir, que tout le monde doit se mettre en ordre. Vous voyez, tu vas avoir une vie réglée, correcte. Et là aussi, les collecteurs d'impôts sont venus déjà. À Jean-Baptiste, lui, on dit, mais nous, on doit faire quoi? Et Jean-Baptiste le dit, vous, faites votre travail, mais ne demandez pas plus.
Ah, oui,
ils demandaient souvent plus. Parce que c'était l'argent facile. Et ils avaient un pouvoir.
Et souvent, c'est beau avoir du pouvoir.
Mais non. Demandez pas plus. Et donc ce Lévi, il était là un jour comme un autre, attendre les gens qui passent, escroquer ou non.
Voilà, c'est comme ça Lévi, selon son nom.
Il y a Jésus qui passe par là, qui le voit. Il lui dit, Lévi, il dit, viens, suis-moi.
Mais qui, toi, comment ça?
On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'il avait déjà entendu parler de Jésus.
Certainement, peut-être pas.
Il le voit là arriver, se mettre avec déjà un groupe de disciples qui étaient avec lui. On ne sait pas exactement combien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il avait choisi 12. Une fois, il avait envoyé 70 deux par deux. On sait qu'il y avait aussi des femmes qui lui suivaient, le Seigneur. Donc, il y avait un certain nombre de personnes qui les suivaient. Il n'était pas à 5, ou que les 12. Il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient avec Jésus, qui les suivaient. Et donc, il voit Lévi, il dit, suis-moi. Et Lévi, il fait quoi? Ben, il a tout laissé, et il est parti avec Jésus.
C'est bon, c'est facile.
Est-ce vraiment si facile? Combien de fois Jésus nous a déjà dit quelque chose, ou nous a appelé à faire quelque chose, et on est mal. Jésus appelle, suis-moi, fais comme moi. Oui, le principe est si facile que tous les enfants comprennent. Et là encore, oui, on n'a pas besoin de faire les études pour comprendre. Fais comme moi. Oui, après, ce qui est compliqué, c'est que Jésus ne nous a pas laissé des paragraphes ou des lois. Il nous a écrit une lettre longue de plusieurs centaines de pages pour comprendre ce qu'il veut. Mais on a cette lettre, c'est la Bible. Elle est là pour nous faire comprendre ce que Jésus attend de nous. Donc Jésus est passé là, il lui dit, suis-moi. Et Lévi, il a saisi l'occasion. Il s'est levé, il m'a dit, bah oui, je vais suivre ce Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait exactement en lui? On ne sait pas. Mais il s'est levé. Il a laissé son travail, il a laissé son argent, le pouvoir certainement qu'il avait, sa position sociale.
Ouais. Alors plus tard, il était quand même dans une clique d'amis, pas toujours très nette, je pense.
Mais il a fait quoi? Il a saisi l'occasion. Il a entendu cet appel. Et Jésus lance l'appel encore aujourd'hui. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui ici. Peut-être nous sommes déjà en chemin avec Jésus. Peut-être que faisons semblant d'être en chemin avec Jésus. Ou peut-être que nous n'arrivons pas du tout à prendre cette décision de suivre Jésus. Mais Jésus appelle. Il appelle aujourd'hui. Et quand Jésus appelle, il y a un verset qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le jour, c'est aujourd'hui. Jésus appelle. Il veut aujourd'hui que nous prenons cette décision pour lui. Peut-être quelque chose aussi que Ça fait longtemps, ah oui, il faudrait que je fasse. Oui. Ah, ça, on connaît aussi tous. Fais-le. Si Jésus l'appelle, fais-le aujourd'hui. Lévi, il nous donne cet exemple. Ce qu'on peut apprendre de lui, c'est qu'il a saisi l'occasion que le Seigneur lui a donnée. Parce qu'il passait par là. Le lendemain, il ne passerait peut-être plus par là. Il ne peut-être plus jamais passer par là. Il avait cette occasion-là et l'a saisi. Et ça, c'est ce qu'il nous dit aussi à nous aujourd'hui. Prends cette décision. Suis-le. Et ça continue encore. Vous savez, là, c'était quand même pour les pharisiens, pour les religieux de l'époque, c'était le summum. Hein. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Waouh! Lévi, l'escroc, avec sa bande d'escrocs avec lui, qui était ami avec lui, et les autres gens, que les pharisiens, les religieux de l'époque, disaient gens de mauvaise vie. Oui, peut-être qu'il y avait des petits criminels, prostitution et compagnie. Lévi donna un festin avec tous ces gens, avec Jésus et ses disciples au milieu dans sa maison. Pourquoi Jésus est allé dans cette maison? Parce que Jésus aime les gens. Jésus va vers les gens. Jésus va à la rencontre de chacun. Jésus ne fait pas de différence. Et aujourd'hui aussi, si tu es religieux, si tu es né dans une église, dans une famille qui va à l'église, qui t'amène tous les dimanches, si tu es né dans une famille où tes parents n'ont peut-être pas voulu de toi, si tu es riche, si tu es pauvre, si tu as travaillé beaucoup, si tu ne travailles pas, si tu es marié, si tu n'es pas marié, si tu es homo, si tu es bi, si tu es petite étoile plus ou n'importe ce qu'on peut être aujourd'hui, Jésus te cherche. Jésus appelle aujourd'hui tout le monde. Il ne fait pas de différence, il ne recule devant personne. Devant personne. Et le changement dans la vie de Lévi, parce qu'il a accepté de suivre Jésus, il a laissé son travail pour suivre Jésus, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il raconte aux autres, il ne fait pas venir vers les autres pour continuer sa vie pourrie d'avant, mais il dit, venez, j'ai trouvé Jésus, j'ai vu quelqu'un qui est parfaitement honnête, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est sincère. C'est ce qui nous manque, ce qui manquait peut-être à lui, ce qui manque peut-être à tous ces escrocs, qui manque peut-être encore aujourd'hui à tous ces escrocs, qui nous manque souvent aussi dans notre vie. Et combien de fois nous aussi on est, n'est pas un peu escrocs aussi, peut-être même dans nos propres familles, peut-être souvent envers le Seigneur aussi. On cherche toujours un. Le cœur est mauvais, il restera mauvais, c'est écrit dans Jérémie. Mais Jésus veut donner un nouveau cœur. Et Jésus a donné un nouveau cœur à Lévi. Et Lévi a dit, ben, je vais le dire à tous mes anciens potes, je vais tous les inviter, on va faire une fête, une méga fête. Il avait peut-être l'habitude de le faire déjà cette fête. Peut-être pour ça ils sont aussi tous venus. Et donc, il en a utilisé cette occasion pour leur parler de Jésus. Il y a un peu cette mode aujourd'hui, bah, c'est certainement aussi très bien, fais-toi des amis. Fais-toi des amis et parle au Jésus. Mais ne fais pas tes amis pour, comme disait quelqu'un une fois, taper ta meilleure vie, hein, pour boire et faire ce que tu veux. Fais-toi des amis avec des gens non chrétiens pour leur parler de Jésus. N'est pas pour boire un coup avec eux. Oui, ça peut se faire. Il n'y a aucun souci. C'est très bien. Dieu nous a donné tout pour notre plaisir aussi. Mais ce que nous devons faire, c'est parler de Jésus. Et là, Jésus était là dans cette fête. Lévi ne l'a pas caché. Il n'a pas dit à Jésus, cache-toi dans la cave. Je vais recevoir mes amis. Non. Il a dit, il était au milieu. Jésus était sur cette fête. Lévi faisait donner un festin à tout le monde pour parler de Jésus, pour dire qui il est, ce qu'il a fait, et pour le suivre quoi, après être avec Jésus. Ça, c'est l'histoire de Lévi. On connaît aussi déjà dans les histoires d'enfants. On le voit dans les livres d'enfants. Ce collecteur d'impôts, cet escroc. Et lui suivait. Pour résumer un peu, on a vu les deux personnes. On a vu Simon-Pierre et Lévi, ou Matthieu. Qui sont-ils? Donc on s'est dit au début, on va voir d'abord qui sont ces personnes. Après, comment le Seigneur a fait pour les appeler et qu'est-ce qu'on nous en apprend. Simon-Pierre, qui il est? Ben, un homme tout à fait ordinaire, un homme tout normal, qui allait à la pêche, dans un plaid. Et Jésus l'a fait devenir un des personnages historiques les plus connus au monde. Qui n'a pas déjà entendu parler de Saint-Pierre? Il y a beaucoup qui n'ont pas entendu parler, mais il y a des millions de personnes qui connaissent cette personne. Et pourtant, il n'était pas destiné à ça. C'était un homme comme toi, vraiment comme toi. Oui, qui allait à son travail, allait prendre ses poissons tous les jours, qui vendait et le lendemain les recommençait. Et Jésus lui a fait un personnage historique. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Même les meilleures méthodes de marketing globales, on dit mal, où tu as fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour arriver à ça. Mais Jésus l'a fait, simplement. Lévi, Matthieu, à côté, description de la personne, ben, c'était un homme un peu plus connu dans sa société à l'époque. Parce que c'était un des publicains, des collecteurs d'impôts, bon, on ne les aimait pas. Les Israélites ne les aimaient vraiment pas. Les pharisiens n'avaient même aucun contact, donc ils étaient exclus de la société, ces personnes, ces collecteurs d'impôts. Parce qu'on ne les voulait pas. Il avait beaucoup d'argent. Il avait une position plutôt influente. Jésus est venu aussi d'abord sur son lieu de travail aussi. Il est entré dans sa vie. Et Lévi a répondu. Et ça, c'est aussi l'appel, je pense, que le Seigneur nous dit. Oui. Il faut répondre au Seigneur. Jésus nous laisse répondre. Mais il nous appelle. Les deux personnes, et après, ce qui est intéressant, la manière comment le Seigneur les a appelés. Et là, on voit, quand on cherche un peu plus, Jésus était un génie. Il était plus qu'intelligent. Il était Dieu, oui. C'était Dieu. Oui, mais là, en tant qu'homme, il était un humain. Certes, avec une intelligence beaucoup supérieure à la nôtre. Et il veut quand même, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui, nous faire apprendre. Il veut nous apprendre. Le Seigneur, il avait le tact qu'il fallait, au moment qu'il fallait. Il a vu que c'était Pierre déjà, mais il savait qui il était, c'est Pierre. Ouais, celui qui s'est mis en avant, qui il lui a dit, ok, suis-moi. Il s'est montré à lui dans sa grandeur. Par un miracle. Et là, Pierre a dit, waouh, s'est jeté à ses pieds. Et le Seigneur, il a pris et lui a dit, ne crains pas. J'ai une mission pour toi. Pour Matthieu, pareil, il est passé là. C'est son lieu de travail. Et Matthieu a saisi l'occasion. Il n'a pas laissé le Seigneur passer. Il aurait très bien pu rester dans sa cabane, ou dans sa tête de là. Il avait tout. Mais ce qui lui manquait, c'était l'honnêteté, la vérité, être vrai. Tout ce qui est problématique dans notre monde aussi aujourd'hui. Et quand on parle des réseaux sociaux, comme on a vu au début, qu'est-ce qui manque souvent dans ces réseaux sociaux? L'honnêteté, sincérité. Pourquoi ces réseaux sociaux ont été créés? Pour gagner de l'argent. Gardons ça en tête. Aussi nous pour nos enfants. les réseaux sociaux ont été créés pour gagner de l'argent. Et cet argent, c'est les informations sur nos vies personnelles. Ces hommes qui ont créé ces réseaux ont beaucoup d'argent. Pas besoin de vous le prouver, je pense. Vous connaissez même les noms de ça. Mais pourquoi Jésus a attiré les gens? Parce qu'il est sincère, il est honnête, il est vrai. Il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Et Matthieu l'avait compris. Il m'a dit, là maintenant, où je vis, c'est l'occasion. Et je vais le suivre. Le Seigneur l'a appelé. Il lui a laissé aussi le choix. Il a laissé choisir de le suivre au monde. Lévi l'a suivi. Et les talents. Et Pierre aussi. Et les deux personnes encore. On en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que cela nous apprend? Là, je pense que c'est surtout deux leçons. C'est la première, c'est Pierre. Qu'est-ce qu'on a compris chez Pierre? Connaître Jésus vous fait aussi connaître nous. Peut-être que c'est ça qui nous plaît parfois, hein, pas trop. Parce qu'on va voir vraiment la pourriture que nous sommes à l'intérieur de notre cœur. Mais on a vu que le Seigneur lui mettait la main et lui dit, n'aie crainte pas. Je te ferai plaisir. J'ai une mission pour toi. Enfin, on peut apprendre beaucoup d'autres choses sur la vie de Pierre. C'est intéressant de suivre vraiment toute sa vie. Ça prend un peu de temps. Mais il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans les évangiles, dans les lettres, et après dans ces lettres aussi. C'est une personne exceptionnelle, Pierre. Et la transformation est encore plus exceptionnelle de Pierre. Pour dire ce que Jésus, ce que Dieu peut faire dans nos vies, dans la vie de chacun. On le voit peut-être encore plus aussi chez Lévi, chez Matthieu. Il est passé, entre guillemets, dans, au moins dans les yeux des gens, des pharisiens, des israélites, des tas d'un escroc qui travaillait pour les Romains, à quelqu'un qui a écrit un évangile qui a été avec Jésus. Un des quatre évangélistes, dont nous avons les quatre évangiles aujourd'hui, qui sont répertoriés dans la parole de Dieu. Les gens le voyaient vraiment. Et Jésus en a fait de lui et son disciple. Un follower, mais un follower pas simplement sur un clic, mais un follower qui faisait, qui vivait comme Jésus vivait. On peut aller un peu plus loin parce que bon, Luc nous a dit il faut réfléchir. On est là pour avoir quelques réflexions sur notre vie. Donc on a parlé des disciples. Non, le mot disciple, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Vivre Jésus? On peut faire la différence, c'est quoi un disciple? Et c'est quoi un croyant? Quand on parle avec les gens dans ce monde aujourd'hui, ah oui, lui il est croyant. Oui, il est très croyant. Pourquoi on dit ça? Parce que il va peut-être tous les dimanches à l'église. Ah oui, dans ce cas-là, il est très croyant. Est-ce pour cela qu'il est aussi un disciple de Jésus? Parce que peut-être j'ai fait mon compte Instagram, suivre Jésus, je suis un disciple de Jésus. Peut-être, peut-être pas. Croire en Dieu, c'est très bien. Beaucoup de monde croit que Dieu existe. Mais Dieu veut un peu plus. Dieu attend un peu plus de nous que de croire qu'il existe. Il veut qu'on lui suive. Et lance cet appel, suivez-moi. Suivez-moi, ça veut dire, oui, vivez comme moi j'ai vécu. Agissez comme moi j'ai agi. Faites comme moi j'ai fait. On sait, et je prêche d'abord à moi-même, je pense. très souvent on a du mal. Il faut qu'on se le répète, et qu'on se le répète, qu'on se le répète, et qu'on se le répète. Être disciple de Jésus veut dire faire comme lui. Vraiment apprendre de lui comme un maître d'apprentissage qui prend son apprenti avec lui, qui dit « Regarde bien ce que mes doigts sont en train de faire, et fais exactement pareil, et tu vas apprendre. » Mais, pour être un disciple, ce n'est pas un don qui tombe du ciel. Claque, t'es un disciple, t'as un don, c'est naturel. Parce que ce que la Bible nous dit, c'est, le mot c'est « faites des disciples ». Il y a le mot « faire » dedans. Donc une activité, quelque chose qui s'apprend. Et en plus, il est dit, ben, à ceux qui sont déjà disciples, faites-vous d'autres disciples. Et c'est ça, je pense, aussi l'apprentissage dans cette journée d'aujourd'hui. Apprenez de moi, comme moi j'ai fait des disciples. Le Seigneur savait comment les appeler. Est-ce que nous savons comment appeler des gens, les gens qu'on a du mal avec? Tout le monde, on n'aime pas, celui-là, il est dans la rue, il n'a pas de travail, et ils ne sont pas très bons. Comment faire de lui un disciple? Le voisin qui fait que le râler, comment faire de lui un disciple? Nos enfants qui ne veulent jamais écouter, comment faire d'eux des disciples de Jésus? Apprenez de moi. Le Seigneur a pris des personnes, on va dire au moins dans ces deux exemples, assez relouées comme on dit. Pas facile les caractères, ce Pierre. Et Lévi, ils ont travaillé, pour les en passer. Comment réagissons-nous aujourd'hui avec les gens autour de nous? Ou est-ce qu'on veut faire des disciples des personnes qu'on aime bien? Ah, mais c'est plus facile. Même les enfants comprennent aussi. Avec les gens qu'on aime bien, oui, c'est bien. Mais est-ce que tout le monde sont bien à nos yeux? Faites des disciples. Mais pas simplement. Ne vous contentez pas d'être juste croyant de croire en Dieu. Mais faites des disciples et qui en font eux encore d'autres disciples. Ça, c'est le principe biblique. Un disciple, je fais un disciple pour que lui en fasse un autre. Pour que lui en fasse un autre. Bien sûr, ça commence dans nos maisons. Ça commence pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants avec des enfants. Et même aussi les grands-parents avec les enfants. C'est le début. Les personnes qui sont sur notre chemin, ou peut-être dans une autre famille, on connaît quelqu'un qui a besoin d'aide parce que là, dans la famille, ça ne colle pas. C'est quelqu'un qui est perdu. Ah oui, je peux lui proposer peut-être de prendre un café avec lui, de parler un peu avec lui. Ça commence comme ça. Rien n'est compliqué. Si on est comme Jésus, on aura de l'amour pour les autres. N'importe comment il est. Si c'est un escroc, non? N'importe quel pays est bien. Faites des disciples. Faire. Oui, ça demande des efforts. Ça demande de l'investissement de notre côté. Ça demande de consacrer du temps. Et ça demande de gérer notre temps. Demander à ma femme, c'est pas toujours facile. Mais comment faire? Mais il faut faire. Et le Seigneur nous donne un exemple. Il est allé vers les gens et les gens sont venus le voir parce que il était quelqu'un de frais et sincère. D'abord. Pour réfléchir un peu plus loin encore, les disciples-là, ils avaient des clés. Est-ce que, de quelle manière, les disciples-là sont intégrés dans notre vie d'église? Là, chacun regarde pour soi-même, là où il est. Est-ce que dans nos églises, on cherche à faire des disciples? Ou est-ce que parfois, on n'a peut-être pas plus envie d'être tranquille, garder les formes qu'on a depuis toujours, et vivre notre vie d'église? comme sur un bateau de croisière, tranquille. Ou est-ce qu'on cherche à faire vraiment des disciples dans nos églises? Deuxième point, l'importance de la vie d'église aussi pour les disciples. J'ai mis en dessous le mot écosystème. Écosystème, c'est un mot qui décrit qu'il y a un terrain, un espace qui est favorable à la croissance des plantes, de toute la nature. Et nos églises devraient aussi être des écosystèmes favorables à la croissance des disciples. De faire des disciples, devenir pêcheurs d'hommes. Ça commence vite parce qu'on parle aux autres. Ah tiens, quelqu'un d'autre s'intéresse. Ah oui. Ah oui, toi avec ton Jésus, ta Bible, comment ça marche? Ah oui, ben viens. On va prendre un café, on en discute. Oui. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on cherche ça, vraiment? Ah oui, on va poser 36 000 questions. Oui, il faut que j'aille le voir. Il faut que j'aille le voir encore. Il est long à comprendre. Donc cherchons pour nous aussi, peut-être, à construire, à avoir des écosystèmes favorables à la croissance. Avoir des églises qui permettent la croissance des disciples, qui permettent cette multiplication des disciples. On est là pour ça. On n'est pas là pour se faire couler l'os. Désolé, je dis comme ça. On aime bien, oui. Mais moi, le premier, même. Ben oui, tranquille, enfin à la maison, et l'apéro et tout. Et... Oui. Chaque chose en son temps. Mais quelle est cette motivation en nous? Quels sont vraiment nos intérêts? Quelles sont vraiment nos recherches? Est-ce que nous cherchons vraiment à plaire à notre Seigneur? Je pense que c'est la question qu'il veut nous poser ce matin. Sur cette question, quand Jésus a appelé ses disciples, il appelle un peu aujourd'hui. Jésus, il est là, il appelle, il nous cherche, il te cherche.